Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous poursuivons pendant ce temps de carême notre série sur le sacrement de pénitence et nous allons parcourir aujourd'hui les différentes étapes de ce sacrement, la contrition, la confession, la pénitence et l'absolution. Le sacrement de pénitence en quatre temps, c'est l'objet de l'émission Vivante Église aujourd'hui. Et pour nous accompagner, je reçois le frère Philippe-Marie Marjolidon, dominicain et professeur de théologie. Bonjour frère Philippe-Marie.
Bonjour.
Alors, on va peut-être commencer par cette parabole du fils prodigue, hein, rapportée par saint Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Le second fils demande à son père sa part d'héritage, il le quitte, il mène une vie de désordre. Et puis, ayant faim, je cite saint Luc, il rentre en lui-même. Il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Ce retournement, c'est en fait la contrition. Comment vous la définiriez cette contrition, frère Philippe-Marie ?
Alors, dans le cas de l'Évangile, il est certain qu'il s'agit d'une contrition, d'une forme de contrition, qui d'ailleurs, si vous regardez au départ, elle est un peu intéressée.
Oui, c'est vrai. Hein,
mais elle évolue, elle mûrit et elle devient une accusation de soi vis-à-vis du Père dont il se sait aimé par lui. Donc la contrition, on peut l'appeler comme ça, on l'appelle en Orient componction, c'est la douleur, c'est plus que le remords ou le simple regret, c'est un vrai repentir, c'est-à-dire de celui qui sait que par telle ou telle faute, il a offensé Dieu, hein, ou le cœur de Dieu, si vous voulez, le cœur du Père, on peut dire aussi ça comme ça. Donc la contrition, c'est une attitude intérieure de repentir qui comprend la douleur intérieure, mais qui va se traduire à l'extérieur, douleur intérieure d'avoir posé un acte mauvais qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre le bien et contre celui qui est l'auteur de tout bien, à savoir Dieu lui-même.
Mmh. Et est-ce que c'est aussi, outre le fait d'avoir cette douleur d'avoir atteint finalement l'amour de Dieu et, Dieu lui-même, est-ce que c'est aussi la douleur d'avoir fait du tort à son prochain ?
Bien sûr. Mmh. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un seul, ne font qu'un. Et donc, quand on pêche plus ou moins gravement contre son prochain, on pêche plus ou moins gravement contre Dieu. C'est pour ça que quand on va se confesser, je vais à confesse, disait-on autrefois, on se reconnaît pécheur devant Dieu, mais d'avoir offensé Dieu par tel ou tel acte contre soi ou contre un autre.
Oui. D'où vient cet élan justement, cette douleur de l'âme et cette détestation du péché ?
D'où vient-elle ?
Oui.
Elle vient de... Alors il y a un aspect naturel, si vous voulez, puis un aspect surnaturel. L'aspect naturel, c'est qu'il est naturel, ce que l'homme reconnaisse quand il a mal fait, il en éprouve un certain remords et même parfois un certain repentir. Donc c'est pas propre au christianisme, c'est les fondements naturels, j'allais dire, de la confession chrétienne. Mais pour nous chrétiens, en raison de la charité, hein, de la grâce et de la charité, elle prend non seulement une valeur, mais elle prend un contenu où c'est pas le simple fait d'avoir transgressé quelque chose, c'est la douleur d'avoir, en transgressant, offensé le cœur de Dieu lui-même. Donc ça donne une tonalité un peu différente, quoique ressemblante à ce qu'on pourrait appeler le repentir naturel, donnant une tonalité différente à la contrition dans le cadre de la pénitence chrétienne.
Et si vous dites, frère Philippe-Marie, que c'est aussi c'est naturel et surnaturel, est-ce que ça veut dire que c'est un don de Dieu, justement,
oui,
de se repentir ?
Le repentir, le vrai repentir, la contrition imparfaite, comme dit le Concile de Trente, la distinguant de la contrition parfaite, la contrition, c'est un effet de la grâce de Dieu. Donc Dieu nous pousse à nous convertir, il veut notre conversion, et par sa grâce, qu'on appelle actuelle pour faire savant, il pousse l'homme à se tourner vers lui, et en se tournant vers lui, à reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de recevoir de Dieu la grâce du pardon, qu'on appelle du côté du prêtre l'absolution.
Et cette grâce, est-ce qu'elle arrive naturellement dans l'âme du pénitent et de tout pécheur, ou est-ce que c'est une grâce qui est spécifique et qu'il faut demander spécifiquement ?
Oui, c'est une grâce spécifique, la grâce de la pénitence. Ce n'est pas la grâce du baptême ou ce n'est pas la grâce de l'Eucharistie. Donc, c'est une grâce spécifique que Dieu donne à celui qui s'ouvre à cette grâce. Donc, mais il faut demander d'être ouvert à la grâce, si vous voulez.
Voilà,
on peut faire une double demande, d'avoir à obtenir de Dieu cette grâce et d'y être ouvert. Parce que notre capacité d'ouverture à la grâce de Dieu, elle varie selon nos dispositions, notre histoire, les moments. Et puis parfois, on peut même s'y fermer.
Oui, parce qu'il y a aussi cette habitude dans le péché, et justement
alors,
qui peut fermer
quand
la
le
grâce.
Péché se répète, en effet, il y a une habitude, on s'habitue à soi-même et on ne voit même plus qu'on a péché. Ça, c'est l'aveuglement. Et c'est probablement le pire de tout. On ne voit pas en quoi on a péché. Comme disent les braves gens, j'ai tué ni père ni mère. Hein, ça, c'est le discours que j'entends encore assez souvent. Je n'ai pas de raison de me confesser. Ou bien, ce ne sont que des broutilles. Broutilles, il faudrait voir. Il faut peut-être faire quelques distinctions entre ce qui est grave, moins grave. Donc, il y a parfois de l'illusion et surtout de l'aveuglement.
Oui, c'est ça, aveuglement et illusion. Alors justement, vous parlez, Frère Philippe Marjolidon, de ce qui est grave et de ce qui est moins grave. Mmh. C'est cette distinction entre les péchés véniels et les péchés mortels. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, avec exemple à l'appui, s'il vous plaît, ce qu'est un péché véniel et ce qu'est un péché mortel ?
Alors, le péché véniel, qu'on appelle aussi le péché léger, ou le péché mortel, qu'on appelle le péché grave. Pour qu'il y ait péché grave, je vais commencer par le pire, si vous voulez, c'est il faut qu'il y ait conscience d'avoir commis quelque chose de grave, ce qui suppose une conscience éclairée sur qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'il y ait un vrai volontaire, c'est-à-dire que ce soit librement commis, et que la matière elle-même, qui est ou l'objet de l'acte, on dira ici la matière, s'y prête. Par exemple, prenons le cas qui peut être grave ou moins grave selon les cas, le mensonge. Mentir, c'est toujours un mal. Mmh. Bon, enfin, il y a des degrés dans le mensonge. Il y a des mensonges caractérisés, j'allais dire carabinés, de vrais mensonges. J'ai menti sciemment à quelqu'un pour ne pas lui dire la vérité, parce que si je la lui disais, j'aurais un risque et pour moi et pour lui. J'ai menti et parfois même je continuerai à mentir, car je ne veux pas reconnaître la vérité, j'en subirai trop les conséquences. Et puis, il y a des péchés moins, qui sont des péchés quand même, véniels, des mensonges qui sont, disons, de moindre importance, enfin, en tout cas, qui sont moins caractérisés, moins graves, comme, je sais, quelqu'un va me téléphoner, c'est un inopportun, pourtant, je sais qu'il a besoin d'aide, mais j'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas, ou bien je fais répondre par quelqu'un d'autre, bah, dites-lui que je ne suis pas là. Bon, c'est pas forcément gravissime, ça. Il faut quand même avoir le sens, il y a un degré, vous voyez, dans le mensonge.
Oui.
Mais ça peut être embêtant tout de même. Ça peut être se dérober, par exemple, un devoir de charité vis-à-vis de quelqu'un, de lui répondre « mais j'en ai pas envie parce que je suis pris par autre chose ou parce que ça m'agace ». Ça peut être embêtant pour la personne qui demandait un secours.
Et oui, c'est ça, qui avait besoin.
Donc j'ai fait dire par un autre « je ne suis pas disponible, je ne réponds pas » ou dites simplement « non, dites-lui que je ne suis pas là ». Bon. La même chose arrive, quelqu'un, un inopportun, qui est vraiment quelqu'un qui ne cesse de vous...
De vous harceler.
Bon, il y a un moment, il faut y mettre fin.
Oui, voilà, c'est ça.
La tactique, du moins sur le moment, ça va être de lui dire, écoutez, je ne suis pas là. Enfin, je fais dire que je ne suis pas là. En fait, je suis là.
Oui.
Bon, j'ai détrouvé ça comme tactique pour me dégager d'un inopportun.
D'accord.
C'est pas brillant, hein, mais enfin, c'est pas la même gravité, vous voyez, que celui qui ment, par exemple, sur ses impôts, quelqu'un qui doit de l'argent à l'État et qui trouve que l'État le ponctionne beaucoup. Et donc, je vais pas, sur ce point, dire tout ce qui concerne mes impôts. C'est un mensonge qui est un péché d'injustice. Donc, vous voyez, ça n'a pas la même gravité.
Mmh. Oui.
Ça peut être léger, c'est véniel quand même, c'est un péché. On va le confesser, et ça peut être mortel ou grave, comme dans le dernier cas que je viens d'indiquer.
D'accord. On a quand même souvent cette difficulté de redire toujours les mêmes péchés, et comment, dans ce cas, peut-on parvenir à une sincère contrition, puisqu'on sait qu'on va immanquablement retomber dans les mêmes péchés ?
Alors dire qu'on va immanquablement, bon, à ce moment-là, on part battu. Il ne faut jamais partir battu. Si la grâce vous est donnée, c'est pour vaincre en nous une inclination au mal, et en particulier une inclination au mal répétée. Donc l'acte de contrition que nous disons juste avant l'absolution, puisque le prêtre va le demander, dit bien qu'on a le ferme propos de ne pas recommencer. Ben, peut-être qu'on va recommencer, bien sûr, parce qu'on ne se dégage pas forcément d'une habitude, surtout quand c'est un habitudinaire, comme on dit en morale, quelqu'un qui... on ne va pas s'en dégager tout de suite. Mais si on part, non pas battu, mais en disant « c'est le Seigneur qui me rendra vainqueur », alors on doit pouvoir, à un moment ou à un autre, se dégager de son péché mignon, quoi, ou de son péché recommençant, et finalement le vaincre, quitte à se faire aider de différentes manières.
D'accord.
Donc, bien sûr, il y a des gens qui me disent « moi, je ne le confesse plus parce que je l'ai déjà dit au prêtre hein, », mais il faut avoir la simplicité et l'humilité.
Oui.
Il n'y a pas de contrition sans humilité, de reconnaître que nous tombons dans les mêmes panneaux. C'est normal, enfin c'est normal, c'est fréquent que l'on retombe dans des péchés, mais je ne vais pas m'avouer vaincu jusqu'à la fin, quoi.
Oui, oui, ce serait nier la grâce.
Le Seigneur veut faire de nous des vainqueurs, il est mort et ressuscité pour ça quand même.
Oui, oui,
et sa grâce, elle est toute puissante. Si elle est impuissante, ce n'est pas à cause de la grâce elle-même, c'est à cause de moi. Mais justement, elle va me rendre plus fort, donc je dois pouvoir vaincre mes penchants mauvais, comme on dit dans les oraisons du temps du carême.
Oui, oui, c'est ça. Alors, une fois cet examen de conscience fait, le pénitent va donc trouver un prêtre, il fait sa confession, et en fait, il y a quand même cette question, pourquoi doit-il aller se confesser, passer par un prêtre, plutôt que s'adresser directement à Dieu?
Ah oui, alors la contrition, qu'elle soit imparfaite ou parfaite, qui est préparé ou qui s'accompagne d'un examen de conscience approprié pour le pénitent qui va aller se confesser, c'est quand même toujours bien de préparer un peu sa confession, hein, c'est pour le prêtre et pour le fidèle, comprend ce qu'on appelle le votum confessionis, c'est-à-dire le vœu de se confesser. Il est la vraie contrition, une contrition sincère, disons, et qui est donc vraie, elle comporte le désir d'aller se confesser. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est que la vraie douleur d'avoir offensé Dieu comporte ce désir de se confesser qui est déjà faire pénitence. Je sais que ce n'est pas très drôle d'aller se confesser, ça n'a rien de réjouissant.
Comme vous dites, hein? C'est une démarche d'humilité.
C'est une démarche d'humilité qui est, on y viendra, satisfactoire, pénitentielle, mais qui est contenue déjà, si vous voulez, virtuellement, mais réellement, dans la contrition. Si j'ai qu'une contrition qui consiste à me dire, bon, bah, j'ai une contrition, je m'adresse directement à Dieu, d'abord, je ne fais pas la volonté de Dieu, qui a institué ce sacrement pour nous, je passe par-dessus la volonté divine, là, en tout cas la volonté du Christ, et je suis à peu près sûr que je n'ai pas une vraie contrition.
D'accord.
S'abstenir de se confesser par respect humain, par crainte de je ne sais quoi, ou à cause de l'idée que moi, je n'ai pas besoin de passer par le prêtre, je m'adresse directement à Dieu. Si je suis un chrétien catholique, c'est une erreur, et c'est une erreur coupable. Et donc, c'est le signe qu'on n'a pas une véritable contrition.
Dans cette confession des péchés, en quoi consiste précisément l'aveu des péchés?
Alors,
le pénitent.
L'aveu, c'est reconnaître devant le prêtre qui agit comme ministre du Christ et de l'Église, on dit en latin « in persona Christi » et « in persona Ecclesiae », c'est de reconnaître les péchés. On confesse non pas des états d'âme, mais on confesse des actes pécamineux qu'on essaie d'ailleurs, grâce à l'examen de conscience, d'ordonner. On va du plus grave au moins grave. Et puis, si on n'en est pas très sûr, on demande conseil au prêtre. Et c'est aussi un acte d'humilité. Mais on y met de la lumière. Et donc, la confession nous aide à mettre de la lumière dans ce qui est grave, moins grave, dans ce qui est péché. Dans ce magma hein, qu'on appelle le ou les péchés.
Et donc c'est aussi une façon d'assumer le fait d'avouer ses péchés, c'est une façon aussi d'assumer sa propre responsabilité.
Oui, bien sûr, puisque comme je vous disais, ça suppose la conscience d'avoir offensé Dieu, la liberté, la volonté, ce qui peut parfois d'ailleurs être sujet à question, hein, et là on en parlera peut-être avec le prêtre dans la cour de la confession. Hein. et que la matière est grave. Donc ça demande un discernement, un jugement. Donc il y a un auto-jugement de la part du pénitent. Il fait un examen de conscience. Bah, ça, sur ce plan-là, j'ai péché contre les vertus, contre les commandements de Dieu, contre les commandements de l'Église, contre en pensée, en parole, par action, par omission, enfin tous les moyens qui existent pour préparer sa confession. Et j'établis donc un diagnostic en un sens sur soi-même que le prêtre va entendre et pour lequel d'ailleurs il va pouvoir aussi m'aider. Parce que ça peut s'imposer, hein, et même le prêtre a le droit, tout en étant discret, hein, la discrétion est toujours importante, de poser telle ou telle question pour s'assurer que le prêtre a bien compris de quoi il s'agissait, hein, et estimer avec le pénitent la gravité de la faute. Parce qu'il arrive que des pénitents s'accusent de fautes graves qu'ils ne sont pas, et inversement. Hein.
D'accord. Par exemple.
Par exemple, le cas du mensonge. Puisqu'on est dans cet exemple-là, oui. Il admet quand même des degrés. Oui. Il s'agit de voir, ou par exemple la colère. Je prends un autre exemple, la colère. On se met en colère. La colère, c'est une passion humaine qui n'est pas mauvaise. Mais on se met en colère pourquoi ? Vis-à-vis de qui ? De temps en temps, il faut savoir manifester très clairement et très fermement que ceci n'est pas acceptable. On se met, c'est une colère calculée, si vous voulez. Hein, mais on va y mettre une certaine passion, il n'y a pas de mal là-dedans. Il faut savoir corriger ses enfants, et parfois il faut monter le ton, voyez, il faut gronder, ça arrive, hein, d'ailleurs pour des adultes ça peut aussi arriver quelquefois. Voyez, donc, mais il y a des colères qui sont vicieuses, on se met en colère pour un rien, et puis on se met en colère de quelqu'un que... qu'on commence à moins aimer ou qui vous agace entre époux, épouse, par enfant. Il y a des injustices qui sont commises par des péchés de colère. Bon, vous voyez, il faut estimer à chaque fois, il faut évaluer le degré de gravité de telle ou telle colère.
Et ça, c'est dans le dialogue justement avec le prêtre qui permet d'éclaircir.
Voilà, alors c'est pas forcément, il faut pas demander chaque fois au prêtre qu'est-ce que vous en pensez. Hein. C'est quand on n'est pas très sûr de la chose, et d'ailleurs le prêtre s'en rendra peut-être lui-même compte dans la confession, il posera quelques questions pour aider le pénitent à y voir clair. De manière à ce qu'il lui donne l'absolution en connaissance de cause, et puis il lui donne une pénitence en connaissance de cause aussi.
Oui, c'est ça, adapté. Puisque vous parlez de cet examen de conscience, de cette préparation au sacrement de pénitence qui est importante, est-ce que il faut nécessairement arriver à la confession avec une liste, avec sa liste de péchés?
C'est bien sûr que c'est pas obligatoire. Mais moi, je le fais comme ça. Hein, je suis un pénitent comme un autre. J'aime bien noter avant ma confession ce que je vais dire, parce qu'on est ému quand on va se confesser aussi. Alors on bafouille, on ne sait pas très bien ce qu'on va dire, ou on sait ce qu'on va dire mais on ne le dit pas très bien, et pour s'assurer qu'on a tout dit, pas par ses scrupules de conscience, mais parce qu'on veut être juste, on veut être vrai, et il faut que le prêtre entende correctement ce que je vais dire, je vais le noter. Voilà, donc ça peut se faire sans papier, hein, c'est sûr. D'accord. On dit qu'il ne faut pas faire de liste. Il faut quand même en faire une. Un acte, et puis un autre, puis un troisième, un quatrième. Mon père, je m'accuse d'avoir ceci, fait cela.
Oui, ça permet de balayer.
Voilà, il ne s'agit pas d'établir un bilan, c'est évident, ce n'est pas de ça. Mais il faut être quand même réaliste, il faut avoir du bon sens.
Factuel,
on pêche
en
acte. Bon, alors, quel acte ? Quel acte j'ai commis contre la vertu de justice, contre la force, contre la tempérance, contre la prudence, contre mon prochain, contre moi-même, contre Dieu, contre mon devoir de chrétien, je ne vais pas à la messe le dimanche alors que je dois y aller normalement tous les dimanches. C'est un péché grave ça, hein,
oui,
l'Église dit que c'est un péché grave, quand c'est volontaire, etc. etc.
Et si on cache sciemment au prêtre des péchés ?
C'est grave aussi, ça. On ajoute un péché sur un autre.
Ah oui.
Si c'est un péché grave que l'on cache sciemment, l'absolution n'est pas... Elle est peut-être valide, mais elle n'est pas fructueuse.
Oui.
Donc le pénitent, il a fait semblant. Il a fait semblant. Il a dit ce qu'il pensait devoir dire, mais il a soustrait à la pénitence tel péché, par souvent une fausse honte ou autre pseudo-argument. Et cacher quelque chose au prêtre, c'est quelque chose à Dieu et à l'Église. Parce qu'en péchant contre Dieu, on pêche aussi contre l'Église. C'est un péché qu'on ajoute. Et donc, le sacrement de pénitence, l'absolution n'est pas fructueuse.
D'accord. Et si on oublie, mais de
façon... involontaire.
Involontaire, un péché.
Si on s'en rend compte après coup, tiens, j'aurais dû dire ça au prêtre, on peut, pour la confession suivante, J'ai omis de dire au prêtre, tu dis tel point. Enfin, si c'est que véniel, il ne faut pas non plus devenir trop scrupuleux.
D'accord.
Mais pour la paix de sa conscience, il peut être utile pour le même pénitent de le dire une autre fois à l'occasion d'une autre confession.
D'accord. D'accord.
Mais il ne faut pas que ce soit volontaire.
Oui, c'est ça. Ah, voilà. Il ne faut pas que ce soit volontaire.
On est ému, on a oublié ça, ça n'est pas grave. L'absolution, elle est donnée pour tous les péchés, dont on dit la même formule, dont j'ai souvenance et tous ceux que j'ai pu oublier.
D'accord. Oui, au moins là, ça, effectivement, c'est très clair. Donc voilà pour ces deux premières parties du sacrement de la confession, la contrition et la confession elle-même, c'est-à-dire l'aveu de ses péchés. Je vous propose, frère Philippe-Marie Marjolinon, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons le psaume 50, qui est ce psaume du pénitent lui-même. Et nous nous retrouvons juste après pour parler de ces deux autres temps du sacrement de pénitence, donc la pénitence elle-même et l'absolution.
Pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié,
pitié, Seigneur, que nous avons péché.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le frère Philippe-Marie Marjolinon pour nous parler du sacrement du pardon. Nous avons vu juste avant la pause musicale les deux premiers temps de ce sacrement, la contrition et la confession. On va maintenant voir la satisfaction, c'est-à-dire l'acte par lequel le pénitent répare ses péchés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette satisfaction? C'est un mot qu'on n'utilise pas.
Oui, alors c'est le troisième acte du pénitent, ou troisième partie de la pénitence. Et d'ailleurs, on dit donner une pénitence au pécheur pénitent. Alors la pénitence, en effet, elle est réparatrice, du moins compensatrice, des fautes avouées au prêtre en confession. Donc, parce que dans le péché, il y a deux aspects. Il y a la faute, qu'on appelle la culpe, et puis il y a la peine qui suit la faute, la peine qu'on appelle temporelle pour le péché pardonné, et qui est en partie remise par l'absolution, cette peine, mais qui nous est laissée pour notre bien, afin de satisfaire. Satisfaire, ça veut dire faire assez, en latin, satisfacere, faire assez pour compenser proportionnellement, hein, c'est pas mathématique purement adéquat, mais en tout cas proportionnellement aux fautes avouées. Alors le prêtre doit d'ailleurs faire preuve parfois d'imagination, hein, pour donner une pénitence appropriée à la personne. Est-ce qu'elle est capable de le faire, cette pénitence-là, et en rapport avec le contenu de ce qui a été confessé.
Alors, si on revient sur cet exemple du mensonge dont vous parliez tout à l'heure, une bonne satisfaction pourrait être laquelle?
D'abord, la première, c'est de prendre la résolution de ne plus mentir.
Oui.
Bon, première chose. C'est quand même important. Et puis deuxièmement, eh bien, de faire œuvre de vérité, c'est-à-dire, par exemple, de faire dans sa prière. Je pense que la prière est une aide très puissante, hein, pour, surtout dans tous les domaines, hein, mais par rapport au mensonge à laquelle s'oppose la vérité, de demander à Dieu l'esprit de vérité. Hein, donc, par exemple, m'arrive de dire, vous devriez, quand vous commencez votre journée, invoquer le Saint-Esprit, dire un Veni Sancte Spiritus. Alors, on le dit, viens, Esprit de vérité, habitez nos cœurs, réformez ce qui est en moi est à réformer, encouragez ce qui doit l'être encore, affermi. C'est ce qu'on dit dans le contenu de ce Veni Sancte Spiritus. Mmh. C'est un exemple,
ce qui est tordu.
C'est un exemple de pénitence qu'on peut donner. Vous voyez, ça paraît spirituel, ouais, c'est une prière, mais c'est une prière qui peut avoir un effet concret, j'allais dire temporel, pour celui, en celui qui se sait sujet plus facilement que d'autres, peut-être, au mensonge.
Mmh. Et est-ce que nécessairement, cette satisfaction, une fois qu'on a donc reconnu son péché et puis qu'on a prié, est-ce qu'il faut aller voir la personne envers qui on a eu ce mensonge ?
Ça dépend. Ça dépend si la chose est grave ou pas, s'il y a une injustice commise contre quelqu'un, demander pardon à quelqu'un de lui avoir menti, par exemple un enfant à sa mère, je sais pas moi, ou à son père, je crois que c'est bienvenu, oui. C'est bienvenu. Bon, mais ça, il faut peut-être en parler avec le prêtre. Mmh. Il m'arrive même parfois de demander aux pénitents, les connaissant peu ou pas du tout, parce que ce sont des gens que je n'ai jamais ni vu d'Ève ni d'Adam, est-ce que la pénitence que je vous donne maintenant, elle vous semble appropriée, vous pouvez la faire ou non ? Est-ce que ça serait bien pour vous de voir cette personne, si c'est un mensonge contre quelqu'un ou à propos de quelqu'un, ou alors, si ce n'est pas avouable comme ça, ça ne sera pas compris par lui, de faire une œuvre bonne à l'égard de celui qu'on a offensé par le mensonge. Mmh. On compense par quelque chose d'autre qui est bien bon, qui est une marque de bienveillance nécessairement positive à l'égard de cette personne à qui on a menti.
D'accord.
Il faut faire, faut voir.
Hein, il faut voir. Ouais, il faut c'est voir. Du cas par cas là. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que souvent la pénitence que donne le prêtre paraît bien légère par rapport au mal qui a été commis. Quand le prêtre dit bon voilà vous direz trois je vous salue Marie, on se dit bon ça fait
oui,
peut-être un peu.
Oui, alors c'est sûr, il y a des pénitences passe-partout qui sont pas toujours très appropriées, c'est certain. Bon, mais enfin il y a quand même des confessions où on ne confesse que des péchés légers, hein, des péchés véniels, surtout ce qu'on appelle la confession de dévotion, c'est la confession fréquente. On va pas surcharger le pénitent de choses lourdes, c'est pas la peine. Maintenant, on va pas donner un pater trois ave à quelqu'un qui avoue, par exemple, une dame qui dit, comme j'en ai eu il n'y a pas très longtemps, j'ai commis deux fois le péché d'avortement. Mm. Oui, c'est ça, quand même. D'ailleurs, elle trouvera elle-même que c'est un peu curieux que le prêtre me donne comme pénitence qu'un pater trois ave pour... Bon, mais en dehors même du péché d'avortement, ou autre chose. Ouais. Hein, j'ai commis une injustice caractérisée contre quelqu'un, bah, je vais donner une pénitence en rapport avec cette injustice. Mais c'est là encore que je pourrais interroger le pénitent. Est-ce que ce que je vous propose pour réparer cette injustice vous paraît convenant ?
Oui, c'est ça.
Vous connaissant vous et connaissant la personne qui a été concernée par ce péché d'injustice. Mmh. Oui, il faut que le prêtre demande un peu à l'Esprit Saint de l'éclairer aussi, oui. Non seulement pour entendre les confessions, mais d'approprier des pénitences aux pénitents. On peut arriver parfois, on peut, par fatigue ou par habitude, on donne un peu toujours la même chose. Mmh. Une confession, vous voyez, il y a différents genres de confessions. La confession d'une religieuse, la confession d'un laïc dans le monde, c'est pas pareil. Donc le prêtre doit s'adapter à chaque fois au type de pénitent auquel il a affaire.
Oui, oui, oui. Est-ce que justement cette satisfaction, cette pénitence que le prêtre donne, même si elle est, comme on le disait, parfois un peu légère, enfin qu'elle peut paraître un peu légère, est-ce que ça veut dire que seuls nous ne pouvons pas réparer notre péché et que c'est en fait l'offre de Dieu ?
Ah oui, bien sûr, c'est nous réparons avec la grâce de Dieu. L'absolution nous est donnée pour être en état de grâce et de pouvoir réparer de manière compensatoire. Alors j'ajoute quelque chose que je n'ai pas dite, mais qui est importante, c'est que la satisfaction, enfin la pénitence, elle commence dès le départ. La contrition est déjà satisfactoire. La confession, ça coûte quand même de se confesser. C'est un élément pénitentiel et satisfactoire. Je pousse même la chose, et il se trouve que quelquefois il y a des prêtres qui ne donnent pas de pénitence, alors qu'ils le doivent. Hein. Il doit.
Sinon, le sacrement n'est
si,
pas
si,
valide.
Si, il est valide, bien sûr. Mais oui. C'est une faute de la part du prêtre hein, de d'accord. ne pas donner une pénitence. C'est partie intégrante de son ministère que de donner une pénitence. Même légère, il doit la donner. Bon, tout ça pour dire que quand bien même, admettons, un prêtre oublie, pas forcément volontaire de sa part, la pénitence, c'est pas à dire, ben non, j'ai bien reçu l'absolution, je fais pénitence par... Déjà, la contrition, la confession, et puis par tout ce qui va suivre la confession, enfin l'acte de pénitence, le sacrement, on dit même toutes les épreuves de la vie, tout ce qui sera pour moi un moyen de faire pénitence par rapport au péché que j'ai pu commettre et que j'ai avoué dans le sacrement de pénitence. Donc il n'y a pas que la pénitence que le prêtre vous donne, qui sert de satisfaction pour les péchés que vous avez avoués. Hein. Le processus satisfactoire, il commence déjà dans la contrition, d'accord. et il s'achève même par toutes sortes de choses que nous avons à vivre par la suite.
Si on
le supporte avec amour, voilà. avec charité, ça contribue à notre amendement, à notre pénitence.
Et si nous n'accomplissons pas la pénitence que le prêtre nous donne?
Alors, si on ne l'accomplit pas, quand on a oublié, on va le dire à la fois suivante, j'ai omis de faire pénitence, parce qu'on a quand même le devoir de ne pas oublier la pénitence qui vous a été imposée. Maintenant, si on l'a fait sciemment, c'est un péché. Oui.
Et est-ce c'est que ça veut péché, dire que vraiment, l'absolution, oui. le sacrement n'est pas valide?
Ça dépend si je l'ai fait, si je l'ai pas
si
fait.
Si c'est volontaire.
Si c'est volontaire, ça grève gravement la...
La validité du sacrement.
Non, pas la validité, non. parce que du côté du prêtre, il a fait ce qu'il devait faire. C'est du côté de la fructuosité. Il faut distinguer la validité, la licéité et la fructuosité. La validité, c'est un prêtre dûment reconnu par l'Église qui est habilité à entendre les confessions. La licéité, c'est qu'il a le pouvoir de le faire. Il a la délégation canonique, le pouvoir canonique qui lui est conféré par l'évêque du lieu, par exemple, curé de paroisse, moi au couvent. Et puis la fructuosité, c'est du côté du pénitent. Il faut qu'il soit en état. La grâce, elle fera pas son effet sans lui. Donc, s'il met un obstacle à la grâce qu'il a reçue du sacrement, si je cache, encore on vient à l'idée, je cache quelque chose où je ne veux pas faire, pour quelle raison, la pénitence qui m'a été demandée, j'ai le devoir ensuite, si je veux réparer ça, de le dire, oh, voilà, je n'ai pas accompli ma pénitence, soit parce que je l'ai oublié, soit j'ai omis de le faire parce que... Par malice,
par paresse.
Alors, c'est plus ou moins grave, hein, bien sûr, là aussi, mais la pénitence fait partie intégrante du sacrement. On ne peut pas se dispenser d'une pénitence que l'on a, qu'on a reçue et qui vous a été imposée par le prêtre.
Vient enfin le quatrième temps du sacrement de pénitence, donc l'absolution. Le catéchisme de l'Église catholique précise qu'elle doit être suivie d'une louange d'action de grâce et de l'envoi avec la bénédiction du prêtre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, frère Philippe-Marie Marjolidon, ce que c'est exactement l'absolution?
Alors l'absolution, c'est l'acte du prêtre. Là, nous avons parlé que des actes du pénitent. Contrition, confession, satisfaction. Entre la confession et la satisfaction, il y a l'absolution du prêtre. Le prêtre agit comme médecin, mais il agit d'abord comme juge. Juge et médecin, c'est ce que dit l'Église et ce qu'enseigne le catéchisme. Alors l'absolution, c'est le Christ qui pardonne les péchés à travers le prêtre, hein, c'est ça. Hein. Quand le prêtre absout, hein, il agit in persona Christi, c'est le Christ qui m'absout. Il lui porte une sentence judiciaire qui délie le pécheur de son péché. Hein, et en raison de quoi aussi, le prêtre est habilité, encore une fois, à lui donner une pénitence appropriée. Donc ce troisième acte, par lequel mes péchés sont remis, c'est le sacrement de la rémission des péchés, péchés mortels et véniels, c'est le prêtre qui le fait dans l'acte absolutoire, ou d'absolution, si vous voulez, hein, absolutoire ou d'absolution, et cette absolution perfectionnera d'ailleurs la contrition. Si elle n'a été qu'imparfaite au début, elle fera que cette contrition devienne, par la grâce de Dieu et par la charité du Christ, parfaite. Donc là, il y a un double effet, en quelque sorte, de l'absolution. D'une part, elle perfectionne la contrition avec laquelle je me suis présenté au confessionnal ou au prêtre pour recevoir le sacrement. Et puis, elle va augmenter en moi donc, la grâce et la charité, et elle me remettra les péchés que j'ai avoués dans le cadre du sacrement.
dans la formule... Ah non, pardon, on va peut-être parler, pour terminer, des effets du sacrement de réconciliation. Ah,
c'est ça dont nous avons parlé.
Et c'est ça.
C'est ça. Effet ouais. de rémission des péchés, rémission de la culpe, rémission d'une partie de la peine, croissance, peut-être pour celui qui est déjà pleinement contrit, de la grâce et de la charité en lui. Voilà, c'est exactement cela que fait l'absolution dans le cœur, dans l'âme du pénitent. Réconciliation, alors oui, rémission des péchés, ça veut dire quoi? Oui, on peut préciser. Réconciliation avec Dieu. Oui. Et avec l'Église, parce que le péché blesse non seulement l'amour de Dieu, hein, mais il blesse aussi la communion avec l'Église. Donc n'oublions pas que le prêtre agit au nom du Christ et au nom de l'Église. Or, mon péché, qu'il soit mortel ou véniel, il blesse quelque chose dans l'amour de Dieu, ou de l'amour de Dieu, et aussi dans la communion, ou de la communion de l'Église. Donc l'absolution a ce double effet de réconciliateur avec Dieu et avec l'Église.
Et donc ça signifie que un chrétien qui reçoit régulièrement le sacrement du pardon fait grandir l'Église, on peut le dire comme ça?
Enfin, en lui.
Il fait en lui.
Grandir en lui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais, bah, mais dans l'Église aussi, parce que non seulement en lui, mais l'Église, elle se dilate toujours plus quand en nous croit la grâce. Or, le péché, c'est ce qui en nous freine ou diminue l'éclat et le rayonnement de la grâce. Donc quand le pénitent est absous, il y a quelque chose de nouveau, hein, je redeviens un homme nouveau en quelque sorte, et si je suis déjà contrit, l'absolution fera quelque chose quand même en moi, même si j'étais déjà contrit, elle fera que la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, l'amour de l'Église sera plus grand et se dilatera plus profondément en moi, dans mon âme.
Et outre cette réconciliation avec l'Église, est-ce qu'on peut dire que la confession offre aussi une réconciliation avec la création tout entière?
Si on a péché contre la création.
Oui, dans ce cas-là. Oui.
On va pas. Il faut voir la nature du péché. Bien sûr, je peux commettre des péchés graves contre certains êtres dits des êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Je peux pécher gravement contre des animaux. Si je saccage volontairement des plantes, c'est pécher contre les créatures de Dieu. Et en ce moment-là, ce qu'il y a, c'est que ce qui a été saccagé, saccagé. Donc là, vous voyez, du côté du prêtre, qu'est-ce qu'il va faire pour pénitence, pour réparer quelque chose qu'on a détruit et qui ne pourrait pas être reconstruit. Ça dépend de la nature du péché. Ça peut aller, en effet, vous avez raison, on peut pécher contre la création, contre les êtres vivants, les plantes ou les animaux. C'est vrai. Bon, c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas.
D'accord. Puisqu'il nous reste encore une minute, j'aimerais bien vous poser cette question, puisque au début de la messe, l'assemblée récite le confiteor, le je confesse à Dieu. Quelle est donc la place du sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence, par rapport à ce confiteor?
Tous les péchés véniels peuvent être remis en dehors de la confession sacramentelle, dont à la messe, par exemple, par le confiteor que l'on récite dimanche, si on le fait avec cœur, et pas simplement de manière mécanique, même et surtout par la communion fervente. Une communion fervente, elle remet les péchés véniels, ce qui n'empêchera pas le pénitent ensuite de confesser ses péchés véniels s'il le fait habituellement. Les péchés véniels dans la confession dite fréquente, ça n'empêchera pas. Rappelons que le sacrement de pénitence a été institué d'abord pour la rémission des péchés graves, des péchés mortels. Mais il est de bonne aloi et c'est une tradition dans l'Église qui est, je crois, très positive. Quand on va se confesser, par exemple, nous religieux, on y est tenu par le droit au moins une fois par mois. On confesse tous les péchés, pas forcément des péchés mortels, des péchés véniels pour lesquels on aura fait d'ailleurs amende honorable à travers le confiteor à la messe, des actes de charité vis-à-vis du prochain, par une prière plus fervente, par une communion fervente. Donc c'est un des moyens par lesquels le confiteor, un des moyens par lesquels on peut obtenir quelque chose de la ferveur de la charité qui souvent nous manque ou contre lequel on a pu pécher par des péchés dits véniels.
Merci en tout cas beaucoup, frère Philippe Marie-Mère Jolidon, de nous avoir éclairé sur le sacrement du pardon. Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent de Toulouse et professeur de théologie. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.